Bonjour Arthur Desnouveaux.
Bonjour.
Pour la quatrième année, on va célébrer aujourd'hui la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui avaient fait 130 morts et plus de 400 blessés. Vous étiez, je le rappelle, vous-même ce soir-là au Bataclan. Qu'est-ce que représentent pour vous ces cérémonies de commémoration? Est-ce que ce sont des moments importants, des moments d'échange, des moments de souvenir?
C'est un moment d'hommage et un moment d'échange en effet, un moment de rencontre. C'est aussi là un peu que se cristallise la communauté des victimes et qu'on peut parler de nos avancées respectives. C'est évidemment un jalon symbolique fort pour toutes les victimes et leurs proches qui se disent en fait, ça y est, 4 ans, où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Moi, je me pose aussi la question d'où j'en serai dans 4 ans, finalement, en espérant être vraiment encore plus détaché que je le suis maintenant.
Alors, il y a quelque chose de différent cette année par rapport aux précédentes cérémonies de commémoration, c'est que l'enquête sur ces attentats est désormais terminée depuis quelques jours maintenant. C'est une enquête colossale, des centaines de milliers de pages, des dizaines de tonnes de documents. Qu'est-ce que vous attendez, et au-delà de vous, qu'est-ce que les victimes attendent de ce procès, sachant qu'il n'y aura qu'une personne dans le box des accusés qui jusqu'à maintenant à garder le silence?
Alors, je mets tous les guillemets possibles, mais c'est déjà une chance d'avoir au moins un des terroristes principaux
Salah Abdeslam
dans le box, exactement. Sachant qu'il ne sera pas tout seul, il y aura une quinzaine de personnes dans le box. Je crois que ce qu'on peut en attendre en tant que victime, c'est déjà que l'état de droit triomphe. Le terrorisme, c'est vraiment tout l'inverse de l'état de droit. C'est le nihilisme, c'est l'injustice la plus complète. Donc voir que le droit peut s'attaquer au terrorisme, je pense que pour les victimes, c'est important. Ça leur montre que la société est là pour les défendre. Ce qu'on attend aussi du procès, c'est que ce ne soit pas un procès purement technique et judiciaire, mais que ce soit un moment pour les victimes d'expression. Et que on puisse porter une parole qui explique toute la douleur, mais aussi toute la reconstruction des victimes de terrorisme.
Ouais. Oui, quand je disais une seule personne dans le box des accusés, je voulais parler des auteurs présumés des événements du 13 novembre. Vous avez publié tout récemment un essai intitulé « Victimes et après », publié chez Gallimard, coécrit avec le magistrat Antoine Garapon. C'est une réflexion sur la reconstruction après un traumatisme de cette ampleur. D'ailleurs, je dis un traumatisme de cette ampleur, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique, au fond, d'avoir été pris dans un attentat terroriste. Et vous dites qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans ce statut de victime, une espèce de statut un peu éternel. C'est une tentation qui peut exister?
Je ne sais pas si c'est une tentation ou une malédiction. Ce qui est sûr, c'est que devenir victime de terrorisme, et notamment d'un attentat comme celui du 13 novembre, qui a été si médiatisé, qui est tellement symbolique, qui est vraiment celui d'une attaque coordonnée, financée depuis l'extérieur contre la France, ça vous donne un poids médiatique énorme. Quand vous êtes victime de terrorisme, au mois de novembre, vous êtes toujours sursollicité pour parler d'un peu tout et n'importe quoi, de tous les sujets connexes. Et donc, il y a quand même une tentation de voir que votre parole porte plus, et que finalement, en étant victime, vous avez accédé à une sorte d'estrade qui peut vous enfermer. Ça, c'est une tentation. Mais même pour les gens qui veulent ne pas rester victime, comment est-ce qu'on arrête d'être victime des attentats du 13 novembre? C'est pas clair.
Mais est-ce qu'on peut véritablement arrêter? Est-ce qu'on est victime à vie, d'une certaine manière, mais en essayant malgré tout de ne pas avoir cette espèce d'étiquette collée sur le front?
C'est une grande question et c'est ce à quoi s'attache ce livre, de savoir comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est faisable? Et j'espère pouvoir revenir dans quelques années.
Vous en êtes où dans ce processus?
Moi, je pense que je suis entre le rescapé et la victime. Je pense qu'un jour, je me définirai, comme l'avait fait un ancien responsable associatif, comme victime à la retraite. Voilà, une expression que je trouve très bien choisie.
Et qui est amusante en plus.
Mais tant que le procès n'est pas passé, en tout cas, je sais que je me considère encore comme victime. Tant que j'ai pas affronté le regard de Salah Abdeslam, je reste victime.
Alors, il faut préciser que le procès, c'est pas pour tout de suite. Hein, ça sera a priori en 2021. Il devrait durer au moins 6 mois. Où en est aujourd'hui le processus d'indemnisation des victimes?
Alors, le processus d'indemnisation, c'est très variable. En fait, comme dans toute cet après de l'attentat, c'est très individuel, c'est très différent selon les gens. Ce qui est sûr, c'est que l'État prend en charge une première provision très rapidement. Que pour les gens qui avaient un dossier simple ou qui souhaitaient pas aller trop loin dans les expertises, ça s'est bien réglé. Pour tous les gens, et ils sont très nombreux, qui ont un préjudice professionnel ou des préjudices un peu spécifiques qui sont pas barémisés, ça s'éternise. Et les associations, et notamment Life for Paris, ont dû pousser pour la création d'une juridiction spéciale, la JIVAT, qui permet aux victimes d'aller en justice pour sortir du temps un peu trop long du fonds de garantie.
Et qui leur permet d'envisager des procédures jusqu'à un délai assez long, en fait. Hein.
Exactement. Ouais. Bah, déjà, l'ouverture de la procédure peut prendre 10 ans, mais une fois qu'elle est ouverte, le fonds peut vous demander des documents, et que ça s'arrête jamais.
Et il faut dire que de nouvelles demandes arrivent régulièrement, qui viennent de personnes qui, jusqu'à maintenant, justement, ne s'étaient pas perçues comme des victimes et qui découvrent, après, qu'elles le sont bel et bien.
Exactement. Nous, on a eu entre 20 et 25 personnes qui sont venues cette année, qui sont des victimes et qui n'avaient pas du tout fait valoir leurs droits. Le cas le plus classique, c'est vraiment, écoutez, en fait, finalement, ça va mal. Là, j'ai commencé une psychothérapie, ça me coûte une fortune. Et je me suis rendu compte dans la presse qu'en fait, je pouvais toucher de l'argent, que ça me permettrait de financer cette psychothérapie.
Est-ce que l'indemnisation fait partie du processus de reconstruction?
Oui, très clairement. Et l'indemnisation, encore une fois, personnalisée. Le fait qu'on vous dise... Une partie de ce que vous avez subi va ouvrir le droit à une créance financière, c'est très important. En revanche, il ne faut pas du tout que ça s'arrête là. Il y a aussi une partie beaucoup plus symbolique. Il y a eu cette médaille de reconnaissance des victimes de terrorisme qui est une manière pour l'État de dire on reconnaît que vous avez souffert et que vous avez en quelque sorte pris une balle pour tout le monde.
Dimanche dernier, il y a eu une manifestation controversée contre l'islamophobie à Paris. À cette occasion, des manifestants ont scandé dans la rue Allah Akbar. Est-ce que cette initiative, est-ce que ce moment... Vous l'avez vécu comme quelque chose de troublant, voire que comme quelque chose d'offensant à 3 jours de l'anniversaire des attentats du 13 novembre.
Alors sur le fait que des gens crient Allah Akbar, non, parce que c'est quelque chose qui devrait appartenir aux musulmans et pas aux islamistes et encore moins aux terroristes, même s'ils essayent de le récupérer. Sur le principe de cette marche, nous on est une association apolitique. Tout ce qui nous étonne toujours, c'est le fait que voilà la victime soit devenue finalement une source de légitimité et que pour faire une manifestation qui fonctionne, il faut essayer d'exacerber la victimité au maximum. Ça nous paraît être un travers de la modernité qui est assez inquiétant et que le livre essaye de s'attacher à démonter.
Comment le retour en France de djihadistes, il y en a quelques-uns qui vont arriver d'ailleurs dans les prochains jours, en provenance de Turquie en l'occurrence, les djihadistes qui avaient rejoint l'État islamique en Syrie, comment cela est-il perçu, vécu par les victimes ?
Les victimes ont une certaine défiance vis-à-vis de l'État qui finalement considèrent qu'il les a pas protégés le jour J, donc ils ont un peu peur. Nous, on pense surtout aux victimes sur place. Quand on lit que c'est des djihadistes qui ont commis des crimes en Syrie, on se dit que les victimes en Syrie finalement ont pas le droit à la justice. Est-ce que c'est des sous-victimes ? Ça, c'est quelque chose qui nous choque énormément.
Ça veut dire que vous pensez que ces djihadistes devraient être jugés dans le pays où ils ont commis leurs exactions ?
Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. On est attaché à l'État de droit. Donc, s'il y a un État de droit qui est reconnu par la France dans le pays où les exactions ont été commises, il n'y a aucun doute qu'il faut qu'ils soient jugés là-bas.
Ouais. Un mot pour terminer, votre association, et c'est la première fois, a lancé un appel aux dons. Vos subventions diminuent, expliquez-vous. Vous craignez de manquer de moyens dans les mois qui viennent pour réaliser votre travail ?
Exactement, parce que l'afflux de nouvelles victimes et la perspective du procès vont sûrement nous demander plus de travail. On va avoir besoin d'embaucher des juristes et de passer plus d'heures de travail salariées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces dons. Mais on espère quand même que l'association après 2022 puisse vraiment réduire la voilure.
Merci Arthur Desnouveaux.
Merci beaucoup.